Chapitre 8. Convalescence. Les pierres témoins se dressent au sommet des falaises près de Castelserre, depuis l'édification de la forteresse, et probablement depuis plus longtemps. Hautes et noires, les quatre pierres pointent du sol rocheux en formant un carré. Le temps, ou la main de l'homme, a rendu indistincts les signes qui marquaient autrefois chacune de leurs faces, et les runes sont aujourd'hui illisibles. Le matériau dans lequel on les a taillés paraît très semblable à celui des blocs noirs du château de Castelserre, hormis de fines veines argentées qui courent comme des lézards sur les piliers. Nul ne se rappelle l'origine de la tradition, qui consiste à prendre ces pierres à témoin d'un vœu ou de la vérité d'une affirmation. Parfois, des combats se déroulent à leurs pieds, la croyance populaire voulant que leur présence assurera la victoire à l'adversaire dont la cause est juste. De nombreuses superstitions entourent l'espace enclos entre les quatre pierres. Selon certaines, une femme stérile pourra y concevoir un enfant, et selon d'autres, elle pourra demander au pilier de la débarrasser de ce qui grandit en son sein. Coutume du duché de Serres, de Dame Clarine. Je quittai mon lit le lendemain. Dans l'obscurité de ma chambre close, je franchis les trois pas qui me séparaient de mon coffre à vêtements. Puis, je m'effondrai sans parvenir à me relever. Je restai allongé par terre et décidai non d'appeler à l'aide, mais d'attendre d'avoir retrouvé assez de force pour regagner ma couche. Cependant, presque aussitôt la porte s'ouvrit, accompagnée d'air frais et de lumière. Sire Doré apparut. Sa silhouette découpée sur le rectangle clair de l'encadrement, il posa sur moi un regard empreint de désapprobation aristocratique.
« Tom, Tom !» fit-il en secouant la tête. « Faut-il donc toujours que vous fassiez preuve d'un entêtement aussi lassant? Allons, retournez dans votre lit et restez-y tant que le seigneur Humbre l'ordonne. »
Comme d'habitude, la vigueur que dissimulait sa frêle carrure me surprit. Il ne m'aida pas à me redresser. Il me souleva carrément dans ses bras et me déposa au milieu de mes draps. À tâtons, je cherchais ma couverture. Il la saisit par le coin et la jeta sur moi.
« Je ne peux quand même pas... » demeurer allongé des jours et des jours sans rien faire,
protestai-je d'un ton plaintif.
Sire Doré prit l'air amusé. Il me plairait de vous voir essayer de vous livrer à une autre activité, car vous en êtes à l'évidence incapable. Je laisse la porte ouverte afin de vous fournir un peu de lumière. Désirez-vous aussi une chandelle?
Je secouai lentement la tête, glacé par ses manières à la fois impersonnelles et indulgentes. Il sortit, mais par l'encadrement, je vis le feu qui flambait dans sa cheminée impeccablement tenue. Il se rassit à l'étroit bureau qu'il avait manifestement délaissé pour m'aider, reprit sa plume et se mit à écrire avec énergie sur un parchemin. Peu après, on frappa à sa porte et, sur son invitation, Calcin entra, un plateau de petit déjeuner entre les mains. Le jeune serviteur le posa sur la table et le débarrassa à gestes minutieux. Quand il eut fini, il y restait plusieurs bols et une chope. Il l'avait repris et se dirigeait vers ma chambre quand Sire Doré déclara sans lever le nez de son courrier.
« Laissez-le ici, Calcin !»
L'adolescent se retira et son maître continua de griffonner. Un moment plus tard, on frappa de nouveau. Cette fois, le garçon apportait des seaux d'eau, accompagné d'un homme au bras chargé de bois pour le feu. Ils s'activèrent dans la pièce sans que le seigneur Doré leur accordât un regard. Quand ils eurent tous deux pris congé, il poussa un soupir, quitta son bureau et alla bâcler la porte. Enfin, il s'adressa à moi.
Voulez-vous manger dans votre chambre ou à table, Tom?
En guise de réponse, je me redressai. Une robe bleue toute neuve était étendue sur le pied de mon lit. Je l'enfilai par la tête, puis me levai. Le chalibat me compliqua la tâche, et une fois debout, je demeurai immobile pendant quelques secondes, saisi de vertige. J'entamai ensuite d'un pas prudent le trajet jusqu'à la table. Je m'arrêtai à la porte, et me retins au montant pour reprendre mon souffle. Puis je poursuivis ma progression. Sire Doré s'était déjà assis et ôtait les couvertures des plats que le domestique avait disposés devant lui. Je finis par prendre place, à mouvement lent, dans le fauteuil en face de lui. On m'avait préparé un repas de malade. Bouillon, gruau délayé et pain trempé dans du lait. Le menu de Sire Doré se composait d'œufs à la crème, de saucisses, de tartines beurrées, de confitures et d'autres gourmandises qui me mettaient l'eau à la bouche. Et l'espace d'un instant, j'éprouvais une rancœur violente et irrationnelle envers mon convive. Enfin, j'avalai ce qu'on m'avait servi et fis descendre le tout avec une tasse de camomille tiède. Puis je quittai mon siège et retournai me coucher. Nous n'avions pas échangé un mot. Pour finir, l'ennui eut raison de moi et je m'endormis. À mon réveil, j'entendis parler à voix basse.
« Il est donc assez remis pour se lever et manger à table ?»
demandait Imbre.
« À peine, » répondit Sire Doré. « Mieux vaut ne rien brusquer. Ses réserves d'énergie sont épuisées, mais cela ne l'empêchera pas, si vous évoquez devant lui des missions en attente, de... »«
Je ne dors plus, »
lançai-je. Mais je ne réussis qu'à émettre un feulement rauque. Je m'éclaircis la gorge. « Imbre, je ne dors pas. » Il s'approcha de ma porte d'un pas vif et me sourit. Ses boucles blanches brillaient, et il paraissait plein de vie et de dynamisme. Il regarda d'un air dédaigneux le coussin que Catriken avait laissé près de mon lit.
« Le temps de chercher un fauteuil, mon garçon, je m'installe et nous allons bavarder un peu. Tu as bien meilleure mine. »«
Je peux me lever. »«
Vraiment ? Ah, eh bien, prends ma main et debout. »« Non, laisse-moi t'aider, ne sois pas têtu. Nous allons nous asseoir près du feu, d'accord ?»
Il s'adressait à moi comme si j'étais légèrement simplet. Je choisis d'y voir une marque de son inquiétude et j'acceptais son appui pendant que je sortais de la chambre. Je pris place avec précaution dans un des fauteuils capitonnés devant la cheminée et il s'assit dans celui d'en face avec un soupir. Je cherchais le fou des yeux, mais Sire Doré s'était remis au travail à son bureau. Imbre me sourit à nouveau et tendit ses jambes devant lui.
« Je me réjouis que tu remontes si bien la pente, Fitz. Tu peux te vanter de nous avoir fait une belle peur. Nous avons dû puiser au plus profond de nous-mêmes pour te ramener. »«
Oui, et il faut que nous en discutions, » dis-je d'un ton grave.
« En effet, mais pas maintenant. Pour le moment, tu dois prendre ton temps et ne pas te fatiguer. Ce qu'il te faut surtout, c'est dormir et manger. »
Des vrais repas, déclarai-je avec fermeté. Avec de la viande. Jamais je ne retrouverai mes forces en me contentant de la bouillie qu'on m'a donnée ce matin. » Il haussa les sourcils.
« On fait le difficile. » « Enfin, c'était à prévoir. Je laisserai des ordres pour qu'on t'apporte de la viande à midi. Tu vois, il suffisait de demander. Après tout, je n'ai pas entendu un mot de toi depuis qu'on t'a ramené au château. »
C'était irrationnel, je le savais. Mais je sentis la colère m'envahir, et les yeux me piquèrent. Je me détournai, tentant de me dominer. Que m'arrivait-il? Comme s'il avait perçu mes pensées, Imbre dit.
« Fitz, mon garçon, tu es encore très fragile. Je t'ai vu traverser bien des épreuves difficiles, mais celle-ci était la plus dure. Comme à ton organisme, laisse à ton esprit le temps de se remettre. »
Je repris mon souffle et m'apprêtai à répondre que j'allais bien, mais je m'entendis déclarer. Je croyais que j'allais mourir en bas, tout seul. Et toutes les images incohérentes de mon séjour en prison me revinrent en un flot irrésistible. Je me remémorai ma terreur et mon désespoir, et la fureur s'empara de moi à l'idée que je devrais désormais porter ces souvenirs en moi. Ils m'avaient tous abandonné. Imbre, le fou, Catriken, Devoir... Tous.
Je le craignais, moi aussi, fit Imbre à mi-voix. Ça a été un terrible moment à passer pour nous tous, mais pire encore pour toi. Toutefois, si tu m'avais écouté...
Naturellement, c'est ma faute, comme toujours. Par-dessus son épaule, Sire Doré dit à Imbre.
On ne peut pas discuter avec lui quand il est dans cet état. Cela ne fait que l'enfoncer davantage. Mieux vaut laisser passer la crise.
Tais-toi !
Hurlai-je. Mais ma voix se brisa, et mon exclamation s'acheva en couinement de souris. Imbre me regarda fixement avec une expression où se mêlaient reproche et inquiétude. Je ramenai mes genoux contre ma poitrine et serrai mes bras autour d'eux. Des sanglots convulsifs entrecoupaient ma respiration. Entre deux hoquets, je passai ma manche sur mes yeux. Je refusais de pleurer. Il s'attendait à me voir m'effondrer, mais il n'en était pas question. J'avais été malade, et j'avais eu une peur bleue, rien de plus. Je pris une profonde inspiration pour me calmer. « Racontez-moi, s'il vous plaît. dis-je à Imbre, d'un ton implorant. Je dépliais mes jambes qui commençaient à trembler et posais les pieds bien à plat sur le sol. Me voir dans une telle faiblesse me faisait horreur. Racontez-moi ce qui se passe. Ça vous épargnera mes questions stupides. Commencez par Civil. Le vieil homme soupira.
Ce n'est pas raisonnable. Tu as autant besoin de te reposer intellectuellement que physiquement.
Je voulus protester, mais il m'interrompit.
Toutefois, je cède. Très bien. Civil a retrouvé son cheval et regagné Castelserre le plus vite possible, sans attirer l'attention. Quand il s'est présenté à Devoir, il pouvait à peine parler tant sa gorge était douloureuse. Il a tout de même réussi à lui faire comprendre que le serviteur de Sire Doré l'avait tiré des pattes d'une bande d'assassins à Bourg de Castelserre, et il n'en a pas révélé davantage au prince. Mais cela a suffi à Devoir pour me rapporter ses propos, et à moi pour lancer des recherches.
Il s'éclaircit la gorge et avoua.
Normalement, nous n'aurions pas dû tant tarder à te récupérer, mais je ne m'attendais pas à ce que tu tues ces hommes, et je n'aurais pas imaginé que tu te laisserais prendre vivant par la garde municipale. Cependant, dès que j'ai appris ton arrestation et ton inculpation, j'ai introduit un de mes agents dans ta cellule. Par malchance, un guérisseur de la garde t'avait déjà examiné. Je ne pouvais donc pas envoyer un des miens. Le sergent refusait obstinément de te relâcher. Il était convaincu que tu avais assassiné les trois hommes, d'autant plus qu'une rixe à laquelle il t'avait précédemment trouvé mêlé te désignait à ses yeux comme un fauteur de troubles. Sire Doré a dû se plaindre à trois reprises de la disparition de ce bijou avant qu'un garde n'ait enfin l'idée de fouiller le logis de Lodevin et ne les y découvre. Pour ma part, j'avais déjà fourni un témoin attestant que tu n'étais pas à l'origine de la bagarre, mais je ne pouvais guère donner de coups de pouce supplémentaires. Le temps que le sergent comprenne enfin que tu avais seulement défendu le bien de ton maître et te remette à nous, il était presque trop tard.
« Vous ne pouviez guère donner de coups de pouce supplémentaires, » répétai-je d'une voix atone. J'étais tout seul, transit froid, et à l'article de la mort, et lui donnait des coups de pouce.
La reine voulait davantage, elle désirait envoyer carrément sa garde te tirer de ta cellule. Je ne pouvais le permettre, Fitz. Il y avait d'autres pis. Le lendemain de la mort de Lodevin, des placards ont fleuri dans le bourg sur lesquels il était écrit que Lodevin et Paget avaient le vif et que des agents de la couronne les avaient oxys, leurs bêtes de lien et eux, le tout en raillant la prétendue volonté royale de mettre un terme aux persécutions injustes des vifiés. On exhortait ceux du lignage à ne pas commettre l'erreur de faire confiance à la reine et à ne pas répondre à sa convocation. Et le texte s'achevait par l'affirmation que la souveraine et ses spadassins ne manqueraient pas d'assassiner quiconque tenterait de dévoiler publiquement la vérité, à savoir que son propre fils avait le vif.
Il se tut un instant.
« Tu comprends donc que j'étais obligé de te laisser en détention. Ce n'était pas mon souhait. » Et je ne devrais pas avoir à te le dire.
J'enfouis mon visage dans mes mains. Oui, j'aurais dû écouter Imbre. Mon emportement a été responsable de la situation. J'aurais mieux fait de laisser Civil se faire tuer, puis de dénoncer le meurtre, j'imagine.
C'eût été une solution, répondit le conseiller de la reine. Mais, à mon avis, ta relation avec Devoir en aurait souffert. « Même si tu lui avais caché que tu aurais pu empêcher la mort de son ami. »« Allons, cela suffit pour aujourd'hui, je crois. Retourne t'allonger. »«
Non. Achevez au moins cette partie de l'histoire. Quelles mesures avez-vous prises en réaction au placard qui accusait Devoir ?»«
Aucune, naturellement. Nous les avons traités par le mépris et la dérision. » De même, nous avons veillé à ce que la couronne ne manifeste nul intérêt particulier pour le serviteur emprisonné de Sire Doré. La garde municipale tenait son coupable. La justice n'avait plus qu'à suivre son cours. Les accusations affichées étaient ridicules et ne constituaient qu'une tentative aberrante pour ternir le nom du prince. Elles étaient même ridicules à double titre, car l'héritier du trône portait encore les impressionnantes cicatrices que lui avait laissées le marguet de son ami. Or, à coup sûr, jamais une bête de chasse n'attaquerait une personne douée du vif. Chacun sait l'empire des vifiers sur les animaux. et ainsi de suite. Finalement, on a pu démontrer que les victimes des meurtres n'étaient que des voleurs. Le vif n'avait rien à voir avec les événements, pas davantage que la couronne. Un serviteur fidèle avait simplement protégé le bien de son maître contre trois larrons.
C'est donc à cause des assertions concernant le vif du prince que vous avez dû me laisser pourrir en prison. J'avais tenté d'exprimer que j'acceptais les faits. D'un côté, je comprenais Humbre, de l'autre, je le haïssais. Le choix de mes termes le fit sourciller, mais il hocha la tête.
« Je regrette, Fitz. Nous n'avions pas d'autre solution. »
« Je sais, et j'étais seul responsable de ce qui m'arrivait. J'avais quasiment réussi à chasser toute aigreur de ma voix. Je me sentais tout à coup terriblement fatigué, mais je voulais en apprendre davantage. Et civil ?
Une fois que j'ai découvert l'identité des trois morts, j'ai compris qu'il me fallait l'interroger. Je lui ai arraché toute la vérité, jusqu'au motif de son geste. Sa mère s'est suicidée, Fitz. Elle lui a envoyé un message où elle le suppliait de la pardonner et se déclarait incapable de continuer à vivre en sachant ce à quoi il était réduit pour acheter leur sécurité, alors même que les hommes la violentaient à loisir dans le fallacieux abri de son propre château.
L'horreur sordide que sous-entendaient ces mots m'emplit de dégoût. Civil avait donc l'intention de se faire assassiner.
Sa mère était morte. À mon avis, il voulait tuer les trois pies sans s'inquiéter d'y laisser la vie ou non, mais il n'avait aucune idée de la façon de s'y prendre. Il avait l'esprit farci d'idéaux, de duels et de défis loyaux, mais Lodvin ne lui a même pas laissé le choix des armes.
Quel est le statut de Civil désormais ? Humbre se tut un instant.
« C'est compliqué. Devoir insister pour demeurer près de lui pendant que je l'interrogeais. Civil est à présent dévoué corps et âme au prince qui l'a défendu face à moi. S'il doit avoir un vifier auprès de lui, au moins nous avons limé l'écrou à celui-là. Le prince est convaincu, et je ne suis pas loin de l'être moi-même, que les Brezinga agissaient sous la contrainte. Si le garçon éprouvait quelque fidélité envers l'épi, le suicide de sa mère et les traitements qu'il lui avait infligés auparavant l'en ont guéri. Il leur voue une haine sans commune mesure avec la nôtre. Ils ont obligé Dame Brezinga à offrir la Marguette à devoir sous peine de les dénoncer, son fils et elle comme vifiés. Mais une fois qu'elle s'est exécutée, elle s'est trouvée entièrement en leur pouvoir. Non seulement elle avait le vif, mais elle avait commis un acte de haute trahison envers son prince. Alors, les pies ont séparé la mère et le fils. Civil a été envoyé à Castelserre avec mission d'entretenir l'amitié qui le liait à devoir, de l'entraîner davantage dans le vif et d'espionner pour le compte des pies. S'il obéissait, il garantissait la sécurité de sa mère, dont Castelmyrte, son foyer, s'est transformé en prison. Les pies sont vite devenus gourmands. Ils se sont d'abord appropriés sa demeure, puis sa cave à vin, puis sa fortune. Si elle s'opposait à eux, il brandissait des menaces contre son fils. Pour finir, certains ont profité de la maîtresse des lieux elle-même, et elle ne l'a pas supportée. À mon avis, ils ont sous-estimé sa force de volonté, ainsi que celle de son fils.
L'histoire était triste et odieuse, mais je ne m'y attardais pas. Des soucis plus immédiats appelaient mon attention. « Et qu'en est-il d'Anya ? Le prince vous est-il averti que je l'avais vu ?» Humbre prit une expression grave.
« Oui, mais est-il possible que tu te sois mépris ? Mes espions au bourg n'ont pas entendu un murmure sur elle. »
Je rassemblais mes souvenirs et les examinais. J'étais blessé. Il faisait sombre. Pourtant, je ne crois pas m'être trompé. Et je suis sûr qu'il s'agit de la femme qui se trouvait chez Lodvin et Paget en même temps que Lourd. Elle leur a offert de l'or contre le fou et moi. Du moins, il me semble. J'avais du mal à comprendre ce qu'elle voulait acheter précisément. Sa présence contrariait Lodvin. Je pense qu'elle est mêlée à cette affaire, mais j'ignore comment. Humbre leva la main, paume en l'air.
Si c'est le cas, elle a bien couvert ses traces. Je n'ai pas détecté le moindre signe d'elle à bourg de Castelserre.
Maigre consolation. Ces espions n'avaient pas non plus découvert où se cachait l'eau de vin. Je gardais pour moi cette remarque.
Il reste un agent des Pies au château même, l'homme qui conduisait Lourd à leur chef.
Ambre prit un air neutre.
Le palefrenier de Civil a été victime d'un malencontreux accident. On l'a trouvé mort dans le box d'un étalon, tué à coups de sabot. Ce qu'il faisait là demeure un mystère.
Je hochai la tête. Encore une piste condamnée. Et la mère de Civil. Sa propriété. Le vieil assassin se détourna de moi.
La nouvelle de la tragédie nous est parvenue le lendemain de ton arrestation. Dame Brisinga a succombé à un empoisonnement alimentaire, ainsi que plusieurs de ses invités et domestiques. L'affaire est très attristante, mais ni gênante ni scandaleuse. La dame du château a été la première qu'on a retrouvée sans vie, mais les jours suivants, d'autres sont tombés malades et ont péri rapidement. Un plat de poisson avarié m'a-t-on rapporté. La dépouille de Dame Brisinga a été transportée chez sa mère pour y être inhumée. Civil se charge de cette lugubre tâche. Le prince de Voir l'a fait escorter de sa propre garde d'honneur en signe de l'estime qu'il lui porte. Civil sait qu'une fois l'enterrement achevé et les détails de la succession réglés, il devra revenir à Castelserre et y demeurer jusqu'à sa majorité. Le château de Castelmyrte sera fermé, mais Sa Majesté la Reine a placé du personnel et un intendant sous les ordres de Civil pour qu'ils entretiennent les lieux en son absence.
J'acquiesçais lentement de la tête. Le jeune Brisinga apparaissait comme un ami au prince, mais il passerait les années à venir dans une cage dorée sous la surveillance attentive d'Ambre. La solution était habile. À lui de décider s'il préférait se considérer comme protégé ou comme prisonnier. Tout avait été mené de main de maître. Je me demandais si Dame Romarin avait trouvé un motif urgent d'aller rendre visite à son ami de Castelmyrte, ou bien si c'était l'agent d'Ambre sur place qui s'était occupé de l'empoisonnement. L'apprenti assassin aurait eu du mal à voyager avec les brûlures dont elle souffrait. Je regardai brusquement Ambre qui soutint mon œil scrutateur avec une expression intriguée. Je me penchai vivement, et avant qu'il pût reculer, passai mon doigt sur sa joue. Aucune trace de maquillage. Sa peau était rose et saine, sans marque d'inflammation.
« Oh, Ambre » fis-je d'un ton de reproche et la voix tremblante de saisissement. « Soyez prudent, je vous en conjure. Vous foncez tête baissée dans le noir, sans que nul d'entre nous sache le prix à payer. Personne ne le sait. »
Il eut un petit sourire.
Peu m'importe le prix maintenant que je connais le bénéfice. Mes brûlures sont guéries. Pour la première fois depuis des années, je n'ai plus mal aux hanches ni aux genoux quand je marche. Mes douleurs ne me réveillent plus la nuit, et ma vue s'est même améliorée.
Vous ne parvenez pas seul à ces résultats. Il se tut, le regard provocateur, et je sus la réponse.
Vous puisez dans l'énergie de Lourd, repris-je à mi-voix d'un ton accusateur.
Ça ne le dérange pas.
Vous ignorez les dangers de l'entreprise et lui n'en comprend pas les risques.
Toi non plus,
rétorqua-t-il sèchement.
Fitz, il y a un temps pour la prudence et un temps pour l'audace. L'heure a sonné de prendre ces risques. Il nous faut apprendre toutes les véritables possibilités de l'art. Quand le prince s'en ira tuer Glafeu, tu l'accompagneras. Et tu devras alors connaître les pouvoirs de l'art et savoir les manier. Ceci,
il se frappa solidement la poitrine du plat de la main,
est un miracle et un prodige. Si nous avions disposé de cette connaissance à l'époque où Subtil était malade, jamais il ne serait mort. Imagine où nous en serions aujourd'hui.
C'est cela, imaginons, dis-je. Imaginons Subtil toujours vivant et toujours sur le trône, puis demandons-nous pourquoi ce n'est pas la réalité.
Il n'avait pas été formé par Galen, mais par sollicité. Ne peut-on supposer qu'il en savait bien davantage sur l'art que nous? Assez, peut-être, pour prolonger ses jours. Dans ces conditions, posons-nous la question. Pourquoi n'en a-t-il rien fait? Pourquoi sollicité elle-même n'en a-t-elle rien fait? Savait-il qu'il y avait un prix à payer, un prix trop élevé?
Ou bien ne manquait-il pas à Subtil un clan pour soutenir ses efforts, tout simplement?
Contra Ambre.
Il aurait pu se servir de celui de Galen dans ce cas. Tu n'en sais rien, et moi non plus. Pourquoi tant de pessimisme?
Pourquoi dois-tu toujours envisager le pire ?
Peut-être parce que j'ai appris la prudence auprès d'un vieillard sage qui se conduit aujourd'hui stupidement. Le rouge monta aux joues d'Imbre, et la colère brilla dans ses yeux.
« Tu n'es pas toi-même. Ou peut-être espire, tu es toi-même. Écoute-moi, petit roquet. J'ai assisté à l'agonie de mon frère. J'ai vu le roi subtil dépérir. J'étais à ses côtés, les jours où il ne se rendait pas compte que ses pensées battaient la campagne. J'étais à ses côtés, les jours où il avait conscience de la faiblesse de son corps et de son esprit et qu'il en pleurait d'humiliation. J'ignore lesquels étaient les plus affreux à supporter. Si son art lui avait permis de changer son état, il n'aurait pas hésité, quel qu'en soit le prix. Nous avons perdu ce savoir. J'entends le retrouver et m'en servir. »
Il s'attendait, je pense, à une réaction violente, à des vociférations de ma part. Je m'y attendais à demi moi-même, et peut-être eussé-je effectivement explosé si je n'avais pas été en proie à un mélange de fatigue, de désespoir et de peur. Il m'avait plongé dans un profond effroi quand j'avais constaté sa santé physique et mentale défaillante, et craint qu'il ne perde son réseau d'informateurs et la masse prodigieuse de renseignements qu'abritait son cerveau. Aujourd'hui, éclatant de santé, brûlant d'ambition, il m'emplissait de terreur. Je connaissais l'existence de cette facette chez lui, cette soif inextinguible d'acquérir l'art, mais je n'avais jamais imaginé devoir me dresser sur son chemin. Après un instant de silence, je demandai calmement : « Est-ce à vous de prendre cette décision ?» Un pli barra son front.
« Comment cela ? Qui devrait la prendre à ma place ?»
C'est peut-être le maître d'art qui devrait avoir la haute main sur la façon dont cette magie est employée à Castelserre, surtout par des élèves sans expérience. Je soutins gravement son regard. En vérité, si j'avais accepté la responsabilité de cette fonction, c'était sur ses instances. Se mordait-il les doigts à présent de voir son entêtement se retourner contre lui ? Il n'en croyait pas ses oreilles, à l'évidence.
« Tu veux dire que tu me l'interdis ? Et tu espères que je vais t'obéir ?»
Les mains sur les genoux, il se pencha vers moi d'un air menaçant. Je n'avais nulle envie d'opposer ma volonté à la sienne. J'étais trop fatigué. Aussi contournais-je la question. Un autre, loin-voyant, a tenté d'utiliser l'art pour ses propres desseins. Son talent n'était ni puissant ni très affiné, mais il puisait dans l'énergie de son clan pour parvenir à ses fins. Il se servait de ses membres brutalement, sans se préoccuper du mal qu'il leur faisait, alors qu'il les saignait à blanc et déformait leur personnalité. « Voulez-vous devenir un nouveau royal ?»«
Je n'ai rien de commun avec lui !»
cracha Imbre.
« Tout d'abord, il ne s'intéressait qu'à lui-même, or tu sais parfaitement bien que j'ai passé toute mon existence à œuvrer sans relâche pour la couronne des loin-voyants. Autre différence, moi, j'acquerrai mon art propre, je ne resterai pas longtemps dépendant de la force d'un tiers. »
« Imbre, » fis-je dans un chuchotement fêlé. Je m'éclaircis la gorge, mais sans grande amélioration. « Vous acquerrez votre art propre, c'est possible, mais pas à la manière dont vous vous y prenez actuellement, en menant vos études seules, en frôlant constamment l'abîme, et désormais en faisant courir des risques à l'ours qui n'a aucune idée du péril que vous représentez pour lui. » J'ignorais s'il m'écoutait. Son regard vert se perdait au loin derrière moi. Je continuais pourtant mon discours alors que ma voix faiblissait et devenait de plus en plus rauque. « Vous devez connaître les dangers de cette magie, Imbre, avant de vous y aventurer et de la manipuler à votre gré. L'art n'est pas un jouet, et nul ne doit l'employer à son seul profit. »«
Ce n'était pas juste !»
s'écria-t-il soudain.
« On m'en a refusé l'enseignement, cet enseignement qui me revenait de droit. J'étais tout autant loin-voyant que subtil. On aurait dû me former. »
Je sentais la fatigue me gagner rapidement. Il fallait que j'obtienne la victoire, ou tout au moins une partie nulle avant d'aller m'effondrer sur mon lit. « En effet, ce n'était pas juste, » dis-je, « mais vous servir de lourd comme béquille ne l'est pas non plus.
et cela ne remplacera pas le véritable apprentissage dont vous auriez dû bénéficier. C'est vous-même qui devez vous le fournir, par vos propres moyens. L'ours possède un art puissant, mais il ne se rend pas compte du danger que cette magie recèle. Sa volonté ne lui permet pas non plus de vous empêcher de l'utiliser à vos propres fins. Il ne pourra vous avertir quand vous puiserez en lui exagérément, et vous-même ne vous en apercevrez que trop tard. Vous n'avez pas le droit de détourner sa force à votre profit, comme celle d'un taurillon attelé à votre carriole. Il a beau être simple d'esprit, dans l'art au moins il est notre égal. C'est un membre de notre clan, et vous devez vous traiter mutuellement en frères, quelles que soient vos aptitudes particulières.
Notre clan ?
Ambre me regardait bouche bée, l'air abasourdi, et je compris qu'il n'avait pas vu ce qui, pour moi, crevait les yeux. « Notre clan, » répétais-je, « vous, moi, Devoir, le fou et l'ours. » Je me tus pour lui permettre de répondre, mais ce fut le raclement étouffé de la chaise que le fou reculait de son bureau que j'entendis. Puis, le bruit quasi imperceptible de ses pas quand il s'approcha de nous. J'aurais aimé voir son expression, mais je ne détournais pas les yeux du regard d'Ambre. Comme il restait muet, je repris. Ambre, j'étais conscient. Je n'avais pas la pleine possession de mes esprits, c'est vrai, mais il aurait fallu que je sois mort pour ignorer ce qui m'est arrivé. Ce que vous avez accompli sur moi,
vous quatre unis.
N'avez-vous donc pas saisi que c'est ainsi qu'opère un clan, en mettant en commun l'énergie et les talents de tous pour parvenir à un but? Car vous n'avez rien fait d'autre. La puissance de l'ours, votre connaissance de l'organisme humain, la maîtrise et la concentration de Devoir, le lien entre le fou et moi, tous ces éléments étaient nécessaires au succès de l'opération, et ils restent à votre disposition si le besoin s'en fait sentir. Devoir dispose de son clan à présent. Un clan boiteux, par bien des aspects, mais un clan tout de même. À condition que nous collaborions dans l'unité. Si vous détournez l'ours pour vous servir de lui comme réservoir d'énergie, vous nous détruirez avant que nous ayons découvert ce que nous valons. Je me tus. J'avais la bouche sèche et le souffle court. En toute autre circonstance, ma débilité m'aurait épouvanté, mais en l'occurrence, je n'avais pas le temps de m'en préoccuper. Je me sentais parvenu à un point d'équilibre avec le vieil homme. Depuis toujours, il était mon mentor et mon guide. Apprenti, j'avais rarement remis en question sa sagesse ou ses méthodes, certain qu'il prenait toujours les meilleures décisions. Mais l'été précédent, j'avais commencé à constater que son esprit brillant connaissait des défaillances et qu'il n'avait plus une maîtrise de sa mémoire aussi parfaite qu'autrefois. Pire encore pour nous deux, je m'étais mis à porter sur ses choix, et même sur sa pensée, un regard d'adulte, et je refusais désormais de croire aveuglément qu'il avait toujours raison. Quand du haut de mes 30 et quelques années d'existence, j'examinais les orientations qu'il avait données à ma vie et à la politique des loin voyants par le passé, je n'étais pas sûr d'y adhérer encore. S'il ne jouissait pas de la science infuse, il me paraissait légitime de lui demander de reconnaître qu'en certains domaines, j'en savais plus que lui. Je revendiquais une égalité un peu particulière, qui n'affirmait pas que je détenais autant de connaissances que lui, mais plutôt que, même s'il restait plus compétent que moi sur bien des sujets, sur certains, il devait me céder le pas. Je le considérais depuis si longtemps comme un mentor, un guide au conseil incontestable, qu'il était douloureux pour moi de le voir comme un homme, et pour lui aussi. Prendre conscience de ses défauts me faisait horreur, et il m'était pénible d'être celui qui lui tendait un miroir. Pourtant, aussi difficile que ce fût, j'étais contraint à m'avouer qu'il avait toujours été ambitieux et assoiffé de pouvoir. Limité par la politique dans la quête de sa magie, défiguré par un accident qui l'avait condamné à œuvrer dans l'ombre, il n'en avait pas moins acquis une influence majeure, et c'est sa volonté qui avait maintenu le trône des loin-voyants en place, alors que le roi subtil déclinait et que ses deux fils survivants se disputaient sa succession. Son réseau d'espions et d'agents, qui avait aidé la reine Kétriken à conserver le pouvoir en attendant que son fils fût en âge de régner. Il se trouvait aujourd'hui à deux doigts de réussir à installer un autre loin-voyant sur le trône. Pourtant,
Rien qu'en le regardant, je voyais que ses succès ne lui suffisaient pas. Ses victoires n'en seraient que le jour où il aurait acquis ce qu'il convoitait depuis toujours. Il jouissait désormais du pouvoir et de ses apparats, et sa position de conseiller royal lui permettait de le manier ouvertement. Mais au fond du haut dignitaire rôdait toujours le bâtard frustré, l'enfant déshérité. Nul triomphe ne le satisferait tant qu'il n'aurait pas maîtrisé l'art et qu'il ne l'aurait pas annoncé publiquement. Je redoutais qu'à vouloir atteindre ce but, il ne sape tout ce qu'il avait bâti par ailleurs, aveuglé par son obstination. Je l'observais tandis qu'il pesait mes paroles et préparait sa réponse. Il ne pouvait inverser le cours des ans. L'art lui-même était incapable de le rajeunir, mais peut-être, à l'instar de Caudron, pouvait-il arrêter son vieillissement et réparer les dommages que ce processus avait causés chez lui. Sa chevelure restait aussi chenue qu'avant, ses rides aussi profondes. Cependant, ses mains avaient perdu leur aspect noueux et une saine vigueur rosissait ses pommettes. Le blanc de ses yeux était immaculé. Comme je le dévisageais, je vis à son expression qu'il était parvenu à une décision. L'accablement me saisit quand il se leva brusquement, car dans sa hâte de sortir, je déchiffrais son désir de mettre un terme à notre conversation.
« Tu n'es pas encore bien, Fitz, » dit-il. « Il s'en faut de nombreux jours avant que tu n'aies retrouvé assez de force pour continuer à enseigner à Devoir et à Lourdes ce que tu sais de l'art, et cela représente du temps que je refuse de perdre. Par conséquent, pendant que tu récupéreras, je poursuivrai mon exploration de l'art. J'avancerai avec prudence, je te le promets, et je n'exposerai personne d'autre que moi au danger. Mais à présent que j'ai commencé, que j'ai senti, pour la première fois, tout ce que cette magie peut m'apporter, je ne reculerai pas. C'est hors de question. » Et il se dirigea vers la porte. Je pris une inspiration hachée. J'arrivais pratiquement au bout de mon rouleau. « Ne comprenez-vous donc pas, Imbre ? Ce que vous avez senti, c'est l'attraction contre laquelle on met en garde tous les élèves artiseurs. Vous vous risquez dans le courant de l'art, au péril de votre vie. Si nous vous perdons, c'est la force du clan tout entier qui est diminuée. Si vous entraînez Lourdes avec vous, vous anéantissez le clan. » La main sur le loquet, il répondit sans se retourner. « Tu as besoin de repos, Fitz. Ne t'énerve donc pas ainsi. Quand tu seras un peu remis, nous reprendrons cette discussion. Je suis quelqu'un de prudent, tu le sais. Fais-moi confiance. » Et il sortit, refermant la porte derrière lui. Il avait fait très vite comme un enfant qui tente d'échapper à une réprimande, ou un homme qui fuit une vérité qu'il ne veut pas entendre. Je me tassai dans mon fauteuil, la bouche et la gorge sèches, la migraine martelant mes tempes. Je portai mes mains à mes yeux pour les protéger de la lumière. Dans cette petite obscurité, je demandais « T'est-il déjà arrivé d'éprouver de l'affection pour quelqu'un et de te rendre compte un jour qu'au fond, tu n'apprécies guère sa nature ?»«
Je trouve curieux que ce soit à moi que tu poses cette question, » répliqua sèchement le fou dans mon dos.
Je l'entendis quitter la pièce. Je dus m'endormir, car à mon réveil, l'après-midi s'avançait et j'étais ankylosé d'être resté assis trop longtemps dans la même position. Je découvris un plateau de nourriture sur une table près de mon fauteuil. Malgré le couvercle, destiné à conserver la chaleur du repas, des globules de graisse figée flottaient à la surface du bouillon, et la viande s'était refroidie. Au bout de deux bouchées, la mastiquée commença de m'épuiser. Je me forçais à la terminer, mais je la sentis ensuite qui pesait sur mon estomac. On m'avait préparé du vin coupé d'eau, et encore une fois, des morceaux de pain baignant dans du lait. Cette vue n'éveilla pas mon appétit, mais j'eus été bien en peine de dire de quoi j'avais envie. Je fis un effort et avalai le contenu du bol. Je me trouvais dans un tel état de faiblesse que je me sentais constamment prêt à éclater en larmes comme un enfant malade. Je regagnais ma chambre d'un pas hésitant de vieillard. Je voulais me passer de l'eau sur le visage dans l'espoir d'effacer ma léthargie. Le broc était plein, je disposais d'un linge pour me sécher, mais mon miroir avait disparu, sans doute emporté lorsque Ketriken avait fait modifier ma décoration. Je m'éclaboussais la figure, mais ne m'en sentis pas revigoré. Je me couchai. 2 jours s'écoulèrent dans la même brume d'abattement et d'extrême fatigue. Je mangeais, je buvais, mais mes forces me paraissaient affreusement lentes à revenir. Imbre ne revint pas me voir. Je ne m'en étonnais pas, mais je ne vis pas de voir non plus. Le vieil assassin lui avait-il ordonné de rester à l'écart? Sire Doré n'avait guère à me dire, et refoulait mes visiteurs sous le prétexte que je n'étais pas encore assez remis pour les recevoir. À 2 reprises, je reconnus la voix inquiète de Heur, et j'entendis une fois Astéri. Je n'avais pas d'énergie, mais l'inactivité me pesait. Je passais mon temps allongé dans mon lit, ou assis dans le fauteuil près du feu, rongé de soucis et d'ennuis. Je songeais aux manuscrits d'art qui m'attendaient dans la vieille salle d'Imbre, mais la perspective d'affronter les escaliers qui m'en séparaient me décourageait, et ma fierté m'interdisait de demander au fou de me les apporter. Non seulement il ne se départissait jamais de sa façade de cire dorée, mais nous étions tous deux embourbés dans une attitude d'indifférence mutuelle, enrobés de politesse glacée. Dans ces conditions, notre relation ne pouvait que s'envenimer, je le savais. Mais j'avais la nuque trop raide pour m'abaisser à tenter une autre approche. Il me semblait avoir accompli assez d'efforts pour réparer et n'avoir essuyé que des rebuts fades pour tout remerciement. J'attendais qu'il manifeste son désir de revenir à de meilleurs termes avec moi, mais en vain. 2 jours lugubres s'écoulèrent ainsi. Le 3e, je me réveillais résolu à me reprendre en main. Si je me levais et m'occupais comme si j'étais en pleine forme, peut-être mon organisme croirait-il qu'il remontait la pente. Je commençais par me débarbouiller, puis décidai de me raser. Le chaume qui couvrait mes joues et mon menton prenait les proportions d'une vraie barbe. À pas lents, je me rendis à ma porte et jetai un coup d'œil dans la salle. Assis à la table, Sire Doré examinait 10aines de mouchoirs en soie, dont la teinte variait du jaune à l'orange, et les comparait en les posant les uns sur les autres. Je toussotai. Il ne réagit pas. Très bien. Sire Doré, veuillez me pardonner de vous déranger, mais je désire me raser, et je ne trouve pas mon miroir. Pourrais-je vous en emprunter un? Sans lever la tête, il répondit.
Croyez-vous que cela soit avisé?
D'emprunter un miroir? Certainement plus que de me raser à l'aveuglette, il me semble.
Non. Pensez-vous avisé de vous raser, voulais-je dire?
Il est plus que temps, à mon sens.
Parfait. Dans ce cas, à vous de voir.
Il s'exprimait d'un ton à la fois neutre et froid, comme si je me lançais dans une entreprise dangereuse à laquelle il refusait de se trouver mêlé. Il revint de sa chambre, avec son miroir personnel à la bordure d'argent délicatement ouvragé. Je le tins devant moi, inquiet à l'idée de contempler mon visage émacié. Mais le spectacle qui m'attendait me frappa d'une telle stupeur que j'en laissai tomber l'objet. Et c'est pure chance s'il ne se brisa pas en touchant le tapis. Je m'étais déjà évanoui de douleur, mais jamais, je crois, de saisissement. Je ne perdis d'ailleurs pas complètement conscience, mais mes genoux fléchirent et je m'assis lourdement par terre, et je m'avachis sur moi-même.
« Tom ?»
fit Sire Doré d'un ton où se mêlaient l'agacement et la surprise. Je ne lui prêtai nulle attention. Je tirai le miroir vers moi sur le tapis et m'y contemplai, puis je me touchai le visage. La balafre que je portais depuis si longtemps avait disparu. La raide de mon nez n'était pas d'une rectitude absolue, mais sa cassure ancienne était beaucoup moins visible. Je rentrai les mains dans ma robe et tâtai mon dos. Du coup d'épée, il ne restait plus de traces, certes, mais rien non plus de la cicatrice aux fréquents élancements que m'avait laissé l'infection d'une pointe de flèche. J'examinai mon cou à la jonction de l'épaule. 2 années plus tôt, un forgisé m'avait arraché là, d'un coup de dent, un morceau de chair en me laissant une marque froncée. La peau était lisse. Je levai les yeux et vis Sire Doré qui me regardait d'un air atterré.
« Pourquoi ? » demandai-je avec affolement. « Au nom d'Eda, pourquoi m'avoir fait ça ? Tout le monde le verra. » Comment expliquerai-je ces changements?
Sire Doré s'approcha d'un pas, et je lus du désarroi dans ses traits. Avec réticence, il déclara
« Nous ne vous avons rien fait, blaireau. »
J'ignore quelle expression prit mon visage à cette réponse, Mais il eut un mouvement de recul. Il reprit d'une voix atone. Je vous assure que nous ne sommes pas responsables de ces modifications. Nous œuvrions à refermer votre blessure au flanc et à purger votre sang des poisons qu'il contenait. Quand j'ai vu la cicatrice au milieu de votre dos commencer à grigner puis à expulser des bouts de chair, j'ai crié qu'il fallait nous arrêter. Mais, même après que nos mains se sont lâchées et que nous nous sommes écartés, j'essayais en vain de me rappeler cet instant. Peut-être mon organisme et mon art ont-ils poursuivi seuls le processus que vous aviez mis en branle. Je ne me souviens de rien. Les yeux baissés sur moi, il se couvrit la bouche de la main. « Imbre !» Il hésita, puis fit un effort et continua d'une voix qui était presque celle du fou. « Je crois que le seigneur Imbre s'est senti... Je ne devrais pas émettre de conjectures quant à ses sentiments, mais il est persuadé, je crois, que vous possédiez ce savoir et que vous le lui aviez caché. »
« Par elle et Eda réunis, » fis-je dans un gémissement.
Imbre avait raison. Je restais aveugle à ce qu'éprouvaient les gens tant qu'ils ne me l'écrivaient pas noir sur blanc. J'avais bien perçu une gêne entre nous, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il s'agit de cela. Même si j'avais su que toute cicatrice avait disparu de mon corps, je n'aurais pas soupçonné qu'Imbre pût se sentir lésé à cause d'un soi-disant secret. C'était donc la raison de son air pincé quand il m'avait quitté. Il était bien décidé à découvrir seul ce que je lui cachais. Je ramenais mes jambes sous moi et me relevais sans aide, aide que Sire Doré ne m'offrit d'ailleurs pas. Je lui rendis son miroir et me dirigeai vers ma chambre.
« Vous ne voulez donc plus vous raser, blaireau ?» me lança Sire Doré.
« Pas pour l'instant, non. Je montai à la vieille salle d'Imbre. Si tu peux l'avertir que j'aimerais l'y voir, je t'en serai gré. » Je m'adressai à lui comme au fou. Je n'attendais pas de réponse, et je ne fus pas déçu. Je n'avais plus aucune réserve. Je dus m'arrêter si souvent dans les escaliers pour me reposer que je craignais de tomber en panne de bougie et de me retrouver dans le noir. Arrivé à la salle, j'avais perdu toute ambition. Quand j'ouvris la porte, Girofle, le furet, bondit et se lança dans une danse endiablée pour me défier de lui arracher son territoire. « Je te le laisse. » lui dis-je. De toute façon, tu me battrais sans doute. Sans prêter attention à ces galopades effrénées entre mes pieds, j'allais m'asseoir sur le bord du lit, puis m'allongeais et sombrais aussitôt dans le sommeil. Je dus dormir longtemps. Quand j'ouvris les yeux, je trouvais le furet assoupi sous mon menton, mais il s'enfuit dès que je commençais à m'agiter. Je remarquai tout de suite que quelqu'un était entré et ressorti, et j'éprouvais une angoisse diffuse à l'idée que je ne m'étais même pas réveillé. À l'époque où j'étais lié au loup, il montait toujours la garde par le biais de mes sens, et il m'aurait alerté sitôt qu'il aurait repéré par mes oreilles la présence d'un intrus. En posant les pieds par terre, je songeais que j'en étais venu à me reposer exagérément sur ces perceptions d'animal sauvage. J'étais devenu trop dépendant de tout et de tous. On avait dégagé une extrémité de la table pour y disposer des plats et une bouteille de vin. Une marmite de soupe chauffait près du feu, et la réserve de bois avait été remplie. Je me levai, m'approchai du repas qui m'attendait, m'assis et entrepris de me restaurer. Tout en mangeant, je parcourus des yeux les manuscrits qu'on avait sortis à mon intention. Le premier était un rapport sur Glacefeu et les dragons outriliens. Un autre était le compte-rendu d'un espion sur les activités des marchands de Terrilville et leur conflit avec Calcède. Sur un vieux parchemin, un dessin des muscles du dos avait été récemment modifié et annoté de la main d'Imbre. Au moins, mon périple entre les mâchoires de la mort avait débouché sur de nouvelles connaissances. Trois autres documents au bord déchiré et à l'encre passée étaient roulés ensemble, tous écrits par le même scribe. Il décrivait une série d'exercices d'art spécialement conçus pour le solitaire. Le terme me laissa perplexe jusqu'à ce qu'une lecture de quelques minutes m'éclaira. Il s'agissait d'exercices destinés aux artiseurs dépourvus de clans. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'une telle situation pût exister, mais en y réfléchissant, c'était logique. N'en étais-je pas moi-même un exemple ? Il y avait eu de tout temps des gens inadaptés ou qui préféraient la solitude tout simplement. Lors de la création des clans, certains s'en trouvaient naturellement exclus, et les leçons que j'avais sous les yeux s'adressaient à eux. À mesure que j'avançais dans les parchemins, il m'apparaissait probable que ces gens avaient servi comme espions ou guérisseurs. Les techniques du premier manuscrit portaient principalement sur les utilisations subtiles de l'art pour écouter discrètement les pensées de quelqu'un ou y implanter des suggestions. Le second traitait de la façon de réparer les lésions de l'organisme. Je le lus avec le plus grand intérêt, non seulement parce que j'avais été moi-même l'objet de sa mise en application, mais aussi parce qu'il confirmait ce que je soupçonnais. Le corps prenait souvent la suite d'un processus déclenché par l'art et la volonté, et il comprenait le mécanisme de la guérison. Cependant, il comprenait aussi que parfois il valait mieux des réparations rapides plutôt que parfaites, que refermer une blessure était plus important qu'assurer une cicatrice lisse et nette, selon les propres termes du manuscrit. Le corps avait la notion de la conservation de son énergie et de ses réserves en prévision des besoins futurs. Le texte avertissait les artiseurs de ne point négliger les penchants naturels de l'organisme et de se méfier d'une ardeur excessive à le remettre en état. Imbre avait-il lu ce passage? Le troisième parchemin parlait de la manière d'entretenir son propre corps. Les notes récentes d'Imbre y contrastaient fortement avec le texte ancien à l'encre passée, et elle tenait la chronique de ses premiers et vains efforts jusqu'à ses derniers succès. C'était ce journal qu'il tenait que je lise. C'était pour cela qu'il l'avait laissé sur la table. Il voulait me faire savoir que, depuis son entrée en possession des manuscrits d'art, il avait essayé sans résultat de réparer ses propres déficiences. Il connaissait la réussite seulement depuis qu'il avait assisté à ma guérison et découvert qu'il pouvait puiser dans le talent de Lourdes pour soutenir cet tâtonnement hésitant. Je lus le récit de sa frustration et de la peur qui l'accompagnait. Je savais par expérience ce que c'était d'occuper un corps abîmé, et le déclin d'œil de nuit m'avait permis de ressentir les effets du vieillissement. Imbre n'avait commencé à mener une vie normale qu'au cours de la dernière décennie. Il avait passé le reste de son existence enfermé dans la salle même où je me trouvais, à travailler dans l'ombre ou déguisé. Quelle rancœur pouvait-on éprouver à pénétrer enfin dans un monde peuplé de gens, de musique, de danse, de conversation, où l'on disposait du pouvoir et de la fortune nécessaires pour jouir de ses plaisirs, et à constater qu'on risquait de s'en voir privé par sa propre déchéance physique. Il m'était impossible de lui reprocher ses tentatives, malgré les dangers auxquels il s'était exposé. Je le comprenais trop bien. Je redoutais d'ailleurs le jour où je devrais affronter semblable décision, car je craignais de choisir comme lui. Je relus soigneusement et à plusieurs reprises le document sur les réparations de l'organisme à l'aide de l'art. J'y appris nombre de détails utiles, mais pas tout ce qu'il me fallait savoir. J'avais la triste certitude qu'Imbre m'avait caché ses manuscrits. S'il m'était tombé sous les yeux, j'aurais compris qu'il tentait d'acquérir l'art par ses propres moyens. Et manifestement, il s'était lancé dans cette quête des années avant que je n'accepte de retourner à Castelserre. Je me radossais dans mon fauteuil et m'efforçais de me mettre à sa place. Qu'avait-il imaginé? Quel rêve avait-il entretenu? Je remontais le temps. La guerre contre les pirates rouges est enfin achevée. Les dragons des six duchés ont chassé l'ennemi. Le pays a retrouvé la paix. La reine est grosse de l'héritier loin-voyant. Royal a non seulement rendu la bibliothèque manquante, mais aussi péri opportunément après avoir réaffirmé son allégeance à la couronne. Et Imbre, après avoir vécu dissimulé toute sa vie, peut apparaître au grand jour sous le titre de premier conseiller de la reine. Il peut se déplacer librement dans le château, savourer plats et vins, et jouir de la société de la noblesse. Que peut-il souhaiter de plus? Rien, hormis ce qui lui a été refusé bien des années plus tôt. On n'enseignait pas l'art aux bâtards royaux, même s'ils s'y montraient prédisposés. Certains souverains faisaient administrer de l'écorce elfique aux enfants illégitimes afin d'éradiquer chez eux toute faculté d'artiser. Et sans doute, d'autres monarques loin-voyants, plus pressés, les avaient tout bonnement éliminés. J'avais appris l'art uniquement sur l'insistance de Dame Patience et d'Imbre, et si l'époque n'avait pas exigé la création d'un clan,
je suis convaincu que le roi subtil aurait refusé ma candidature. Ambre, lui, n'avait reçu aucune formation, et, comme tous les enfants, j'avais accepté ce fait sans me poser de questions. A-t-on cherché à savoir si vous aviez un don? Avez-vous demandé à entrer en apprentissage? Et vous a-t-on rejeté ou bien n'avez-vous pas une fois soulevé le sujet? Je n'avais jamais tenté de connaître les détails. Il aspirait à cette connaissance interdite. Je le savais au mal qu'il s'était donné pour m'en ouvrir les portes et à son espoir démesuré de m'y voir briller. Mon échec à maîtriser la magie avait été aussi cuisant pour lui que pour moi. Pourtant, jusqu'ici, je n'avais jamais songé à rapprocher tous ces éléments et à imaginer sa réaction lorsque les manuscrits d'art étaient parvenus entre ses mains. Depuis sa visite chez moi, dans ma chaumière, je savais qu'il les avait lus, et le connaissant, j'aurais dû me douter qu'avec ou sans l'aide d'un professeur, il tenterait d'appliquer leurs préceptes. J'aurais dû lui proposer de lui enseigner ce que j'avais appris. Chaque fois qu'il évoquait le sujet des postulants au clan d'art, espérait-il secrètement que je penserais à lui? Moi-même, pourquoi n'avais-je jamais envisagé sérieusement sa candidature? Certes, une fois je l'avais cité devant lui, comme on jette un os à un chien affamé pour qu'il se tienne tranquille, mais je ne l'avais jamais regardé comme vraiment capable d'apprendre. Pourquoi? Je m'aperçus que mes interrogations commençaient à porter davantage sur moi-même que sur Imbre. Tout en réfléchissant, je mis de l'eau à chauffer puis allai chercher son miroir. Dans son armurerie d'assassin, je trouvai quantité de couteaux assez effilés pour servir de rasoir. Je les employai comme tels, en prenant mon temps, et en regardant apparaître peu à peu mon visage remis à neuf. J'étais assis à la table, occupé à me mirer quand Imbre entra. Je ne lui laissais pas le temps de parler. Je ne m'étais pas rendu compte que mes anciennes cicatrices avaient disparu. Je crois que le clan a mis en branle ma guérison et qu'elle a poursuivi sur sa lancée comme une charrette dans une pente. Le processus s'est continué sans mon intervention consciente et je ne sais même pas exactement comment il s'est déroulé. Imbre répondit d'un ton aussi humble que le mien.
« Oui, c'est ce que Sire Doré a réussi à me faire comprendre. »
Il s'approcha, puis examina mon visage, la tête penchée. Je croisai son regard, et il sourit d'un air nostalgique.
« Oh, mon garçon, comme tu ressembles à ton père !»« Beaucoup trop pour le bien de nos desseins. Tu n'aurais pas dû te raser. Au moins, la barbe dissimulait certaines modifications. À présent, il faut attendre qu'elle ait assez repoussé pour camoufler l'étendue des changements avant que tu puisses te présenter à nouveau dans les couloirs de Castelserre. »
Je secouai la tête. Ça ne suffira pas à Imbre, même avec une barbe fournie. Une dernière fois, je me contemplai tel que j'eusse pu apparaître, puis j'éclatai de rire et reposai le miroir. « Venez, asseyez-vous. Vous connaissez comme moi la solution. J'ai lu vos manuscrits, mais ils ne traitent pas de cette question particulière. Nous allons devoir travailler à l'aveuglette ce soir. » Notre collaboration se révéla difficile. Par nature, nous étions l'un et l'autre des artiseurs solitaires, je pense. Et pourtant, il nous faudrait apprendre à coopérer en tant que membres du clan de devoir. Nous multipliâmes donc les faux départs, nous exaspérâmes de la chape de brouillard que Galen m'avait imposée, maudîmes mon usage de l'écorce elfique et la courte vue de ceux qui avaient refusé tout apprentissage à Imbre dans sa jeunesse. Mais finalement, l'art se mit à circuler entre nous, avec hésitation, et, comme cela m'était arrivé bien souvent par le passé, je m'en remis aux longues mains d'Imbre. Je lui fournissais mon énergie et mon art, car son talent se réduisait encore à un filet de magie sporadique, et sa connaissance de la structure du corps humain se combinait à la conscience que mon organisme avait de lui-même pour nous guider dans notre entreprise. Par certains aspects, notre tâche présentait plus de difficultés que celle de ma guérison, car il fallait traiter chaque partie séparément, et à l'encontre de ce que ma chair savait juste,
mais nous finîmes par l'emporter. Alors, je repris le miroir. Ma nouvelle balafre ressortait moins que l'ancienne, et l'arête de mon nez déviait moins que naguère, mais cela suffirait. Mes signes distinctifs étaient revenus, tout comme la vieille marque de morsure près de mon cou, l'étoile de la pointe de flèche près de ma colonne vertébrale et une plaque de tissu cicatriciel, tout neuf, là où l'épée de l'eau-de-vin m'avait touché. Ces marques artificielles étaient plus faciles à supporter que les originales, car elles n'affectaient que la peau, et nous ne les avions pas rattachées aux muscles. Elles provoquaient pourtant des tiraillements agaçants, auxquels, je le savais, je finirais par m'habituer. C'est Timbre qui remarqua les racines sombres de ma mèche de blaireau. Il secoua la tête. J'ignore comment modifier cela. Nulle part on ne mentionne dans les manuscrits la façon de changer la couleur des cheveux. Si tu veux mon conseil, teins en noir la mèche tout entière. Ainsi ça saute aux yeux, on te croira devenu coquet, et la coquetterie s'explique aisément. J'acquiesçais, puis posai le miroir. D'accord, mais plus tard. Pour l'instant, je suis épuisé. C'était la pure vérité. Il me regarda d'un air étrange.
Et ta migraine ?
Je fronçai les sourcils et portai la main à mon front. Rien de pire qu'une migraine ordinaire, malgré tous les efforts d'art que nous avons fournis. Vous aviez peut-être raison. Il suffisait peut-être que je m'habitue. Il secoua lentement la tête et contourna la table pour tâter mon crâne du bout des doigts.
« Ici, »
dit-il en suivant la cicatrice désormais disparue, qui avait donné naissance à ma mèche blanche.
« Et ici. »
Il appuya sur une zone proche de mon œil. Je tressaillis par réflexe, puis me pétrifiais. Je ne sens rien. J'éprouvais toujours une douleur à la tête quand je me coiffais, et la figure me faisait mal quand je restais trop longtemps exposé au froid. Je n'en avais jamais pris conscience.
Pour moi, ta blessure près de l'œil remonte à l'époque où Galen a voulu te tuer, au sommet de la tour, dans le jardin de la reine, alors que tu suivais son enseignement. Burig disait que tu avais failli devenir borgne. As-tu oublié les coups dont il t'a roué ?
Je secouai la tête sans répondre.
Eh bien, ton corps non plus. Je t'ai vu de l'intérieur, Fitz. J'ai vu les dégâts qu'a subi ton crâne dans les cachots de Royal, et d'autres fractures mal ressoudées sur les os de ton visage et tes vertèbres. La guérison d'art a réparé nombre d'anciennes dégradations. Je note avec intérêt que tu ne souffres plus de migraines après avoir artisé, et je suis encore plus curieux de savoir si tu vas enfin échapper à la menace de tes crises.
Il me quitta pour se diriger vers sa bibliothèque. Il en revint avec le plus horrible des ouvrages. La chair de l'homme, de Verdad l'écorcheur. C'était un objet magnifique, au feuillet relié entre deux couvertures en bois d'alu gravé, et il sentait l'encre fraîche. Il s'agissait à l'évidence d'un exemplaire récent. L'auteur, prêtre jamaïlien, corrompu et cruel, avait passé des années à dépecer et démembrer des cadavres dans un monastère de son lointain pays, et quand on avait découvert sa dépravation, sa notoriété avait grandi pour s'étendre jusqu'au ciduché. J'avais entendu parler de son traité, mais jamais je ne l'avais eu sous les yeux.
« Où l'avez-vous trouvé ? » demandai-je, étonné. « Je l'ai fait rechercher il y a quelque temps. Il m'a fallu 2 ans pour mettre la main sur cette édition. » Mais le texte a manifestement été retouché. Verdad ne se décrivait pas à lui-même comme l'écorcheur, ainsi qu'on le voit dans ce document. En outre, je doute qu'il se fût délecté de l'odeur de la putréfaction comme on l'affirme ici. Non, c'est pour les illustrations que je me suis procuré ce livre, pas pour les ajouts apocryphes au texte.
Imbre ouvrit l'ouvrage avec révérence et le posa devant moi. Docilement, je laissai de côté la calligraphie jamaïlienne surchargée pour m'intéresser aux dessins détaillés de l'intérieur du corps humain. Enfin, j'avais vu les études qu'Imbre en avait tracées, ainsi que d'autres de la main de son maître, mais c'étaient des ébauches grossières à côté de celle-ci.
On ne peut comparer les schémas indiquant les points du corps où l'insertion d'une dague provoquera une mort rapide avec la représentation précise des organes vitaux. Les couleurs étaient si réalistes qu'elles firent ressurgir en moi l'image des entrailles fumantes d'un cerf éventré. Comment expliquer le sentiment de vulnérabilité qui me saisit soudain? Tous ces objets mous, d'un rouge profond, aux luisances grises, ce foie brillant, et ces intestins aux enroulements complexes occupaient des places définies dans mon organisme, et l'eau de vin les avait transpercés d'un coup d'épée. Par réflexe, je portais la main à la fausse cicatrice, au bas de mon dos. Là, nulle côte pour me protéger, rien que des bandes musculaires entrecroisées. Humbre remarqua mon geste.
« Tu comprends à présent mon inquiétude pour toi. Dès le début, j'ai eu la conviction que seul l'art pourrait te remettre en état. »
« Refermez ce livre, s'il vous plaît, » dis-je, et je me détournais du précieux ouvrage, me sentant défaillir. Sans m'écouter, Humbre passa au dessin suivant, celui d'une main à la peau et aux muscles écartés, et fixé sur le côté pour laisser voir les os et les articulations.
« Celui-ci, je l'ai appris par cœur avant de me traiter moi-même. Ces croquis ne sont pas absolument exacts, à mon avis, et pourtant j'ai l'impression qu'ils m'ont aidé. Qui aurait imaginé qu'il existait tant d'eau dans la main et les doigts ?»
Il leva enfin le regard vers moi, s'aperçut de mon malaise et rabattit la couverture du grimoire.
« Quand tu seras en meilleure forme, je te recommande d'étudier ce document, Fitz. D'ailleurs, il serait peut-être bon que tous les artiseurs t'imitent. »
Même lourd ? Demandai-je avec un sourire mi-figue mi-raisin. À ma grande surprise, il haussa les épaules.
« On ne perdrait rien à le lui montrer. Il est parfois capable d'une étonnante concentration, Fitz. Qui sait ce qui se grave dans son crâne difforme ?»
À ces mots, une réflexion me vint. « Difforme. Penseriez-vous qu'on puisse employer l'art sur lui, réparer ce qui est défectueux chez lui et le rendre normal ?» Humbre secoua lentement la tête.
« Différent ne veut pas dire obligatoirement défectueux, Fitz. L'organisme de l'ours se perçoit comme en bon état. Pour lui, ces différences ne sont pas plus... C'est pure hypothèse, je sais, mais certains sont grands, d'autres petits, et je pense que, du point de vue de l'ours, ces dissemblances sont du même ordre. Son corps s'est développé suivant un plan particulier. Il est ce qu'il est. Nous devrions peut-être remercier les dieux de nous l'avoir envoyé, tout simplement, malgré sa différence.
Je vois que vous avez étudié le sujet avec application. Je m'étais efforcé de ne pas m'exprimer d'un ton accusateur.
« Tu n'as aucune idée de ce que j'éprouve, Fitz, » répondit-il à mi-voix. « J'ai l'impression que la porte de ma cellule s'est ouverte et que j'ai le droit d'aller où bon me semble. Tout ce que je vois m'éblouit. Pour un prisonnier libéré, un brin d'herbe recèle autant d'émerveillement que toute une vallée. Je fulmine contre ce qui me détourne de cette exploration. Je dois prendre sur moi pour dormir et me restaurer. J'ai du mal à m'intéresser aux affaires de la couronne. Qu'ai-je à faire des marchands de Terrilleville, des dragons et de la Narchesca? L'art s'est emparé de mon imagination et de mon cœur, et je n'ai d'autre désir que celui de le parcourir dans toutes ses dimensions. »
J'étais accablé. Je reconnaissais les symptômes. Combien de fois j'avais déjà vu Humbre en proie à ce genre d'obsession fébrile. Quand son esprit jetait son dévolu sur un domaine d'étude, il n'en démordait plus tant qu'il ne l'avait pas examiné sous toutes les coutures, ou qu'un autre objet de fascination n'avait pas détourné son attention. Je tentais de prendre un ton léger. « Cela veut-il dire que vous laissez de côté pour quelque temps vos expériences explosives ?» Un instant, il eut l'air égaré, comme s'il avait oublié l'épisode auquel je faisais allusion. Puis, il répondit.
« Ah, ça, je pense avoir découvert ce que je cherchais à déterminer. Ce mélange peut se révéler utile dans certains cas, mais il est trop difficile à doser pour servir de façon fiable. »
Il eut un geste désinvolte.
« J'ai mis le sujet en suspens. Il est beaucoup plus important pour moi d'étudier l'art. »
« Humbre, » fis-je à mi-voix,
Il ne faut pas vous risquer seul dans cette entreprise. Et encore moins y entraîner lourd. Vous comprenez maintenant, j'espère, que c'est mon inquiétude pour vous qui me fait parler ainsi, et non la volonté égoïste de vous dissimuler un secret. Je m'interrompis pour récupérer mon souffle. Vous avez besoin d'un socle. Quand j'aurai recouvré mes forces et que nous aurons repris nos leçons ensemble, devoir, lourd et moi, vous devrez vous joindre à nous. Il resta un moment à m'observer d'un œil scrutateur.
Et Sir Doré ?
Il pencha la tête.
Tu as dit que lui aussi faisait partie du clan.
Vraiment ? Je feignis la perplexité.
Ah oui.
Il était présent à ma guérison et, en effet, j'ai cru sentir. Pensez-vous qu'il y ait réellement contribué ? Ambre m'adressa un regard étrange.
N'es-tu pas mieux placé que moi pour en juger ? Tu me l'as affirmé il y a moins d'une journée.
Je tentais d'analyser ma singulière et profonde répugnance à inclure le fou dans nos leçons d'art. Il ne s'y présenterait pas, de toute façon. Pourtant, en étais-je bien sûr ? Je biaisais. Je percevais sa proximité, mais pas ce qu'il faisait. L'air grave, humble, répondit.
J'avais l'impression qu'il nous guidait. Il disait avoir participé à une opération similaire pour sauver Œil de Nuit.
Il se tut, puis poursuivit d'un ton sans inflexion.
Il te connaît bien. C'est en cela, je pense, qu'a consisté la majeure partie de son intervention. Il te connaît bien et il paraissait savoir comment accéder en toi.
Il soupira.
Tu l'as déjà avoué toi-même, Fitz.
Il était là quand j'employais à la fois du vif et de l'art pour éviter la mort à Œil de Nuit, c'est vrai. Mais il est resté spectateur. En revanche, il m'a aidé ensuite à me remettre d'aplomb. Je m'interrompis soudain, puis je poursuivis au bout d'un moment. Se peut-il qu'on prenne l'habitude de la réserve et du secret ? Je vous jure, Imbre. J'ignore pourquoi.
Oh, et puis zut !
Oui, le fou et moi sommes unis par un lien d'art, ténu mais réel. Il date de l'époque où le fou s'est maculé d'art, l'extrémité des doigts au contact de vérité, puis m'a touché. Il s'est renforcé lorsqu'il s'en est servi pour me ramener dans mon corps, et à mon avis, si je l'examinais aujourd'hui, je le trouverais encore plus solide depuis ma guérison. Je ne pense pas que le fou possède l'art de façon inhérente. Il ne dispose que des traces au bout de ses doigts et son lien ne le rattache peut-être qu'à moi seul. Imbre eut un sourire presque penaud.
Eh bien, me voici soulagé à double titre. D'abord, de t'entendre me dire la vérité, et ensuite, d'apprendre que... Ma foi, je connais le fou depuis longtemps, et je lui porte une grande estime, mais il demeure chez lui une étrangeté, même quand il joue son rôle de Sire Doré, qui me met parfois mal à l'aise. En certaines occasions, il paraît en savoir trop, et en d'autres, je me demande s'il se sent concerné par ce que nous jugeons essentiel. À présent que j'ai fait l'expérience de l'art, et que je sais à quel point il nous met à nu les uns devant les autres. Comme tu l'as dit, on prend l'habitude de la réserve et du secret, et nous devons la conserver si nous voulons survivre. L'idée de confier tous mes secrets au fou m'est aussi odieuse que celle de partager les siens.
Je restai pantois devant sa franchise et interdit devant son opinion. Pourtant, il avait raison. La sincérité que je sentais entre nous me mettait du baume au cœur. J'entretiendrai moi-même Sire Doré de sa place dans le clan, dis-je. Ce qu'il est prêt à accepter ou non pèsera lourd, et nul ne doit nous aider sous la contrainte.
En effet, profites-en pour clore cette querelle ridicule qui vous oppose. En votre présence à tous les deux, on se sent aussi à l'aise qu'entre deux chiens qui se montrent les dents. On se demande qui va se faire mordre quand ils se décideront à passer à l'attaque.
Je glissais sur le sujet. Et vous participerez à nos leçons dans la tour d'art ?
Oui.
Je me tus, puis estimai qu'il fallait poser franchement la question. Et vos expériences personnelles sur l'art ?
Je les poursuivrai,
répondit-il calmement.
Il le faut. Tu me connais, Fitz, et tu sais comment je fonctionne. J'ai toujours appris seul, discrètement, et chaque fois que j'ai découvert un filon de savoir que je pensais devoir m'approprier, je l'ai toujours suivi avec ardeur. Ne me demande pas de changer cela aujourd'hui, j'en suis incapable.
Il disait la vérité, j'en suis convaincu. Je poussai un grand soupir, sans trouver le courage de lui interdire ses recherches. Soyez prudent, mon ami. Soyez très prudent. Des courants sont violents et les prises traîtresses. Si jamais vous perdiez pied,
je ferai attention,
dit-il. Là-dessus, il sortit. Je regagnai lentement le lit qui était désormais le mien plus que le sien, et sombrai dans un sommeil sans rêve.